est une rediffusion.
Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Alors que s'ouvre demain à New York le sommet spécial des Nations Unies pour sauver le climat, ces journées sans voiture dimanche, une initiative mondiale est plutôt bien suivie en Europe, mais il y a beaucoup à faire. Par exemple, en Pologne, Varsovie a dépassé les seuils de pollution, le fameux smog, un jour sur trois l'année dernière, et la capitale est la cinquième ville la plus polluée de l'Union. Alors une journée sans voiture, est-ce que ça changera un peu quelque chose? Pas sûr, comme l'a constaté dans la grande banlieue de Varsovie, Thomas Giraudeau.
Ces jours de marché à Radzemin, une petite ville de 12 000 habitants à 30 km au nord-est de Varsovie. Et tout le monde ou presque est venu en voiture, difficile de se garer sur les parkings ou le long des trottoirs. Justyna, une mère de famille d'une quarantaine d'années, s'apprête à libérer sa place.
La voiture, c'est plus commode, plus rapide, plus simple. Je peux aller où je veux avec. Les transports en commun existent, mais c'est beaucoup plus compliqué. L'arrêt de bus est à 3 km de chez moi, donc ça fait quand même loin.
Il faut compter 30 à 40 minutes de route pour relier Radzemin à Varsovie, un trajet que Jerzy, un agriculteur, effectue quasiment tous les jours.
Évidemment, pour éviter les embouteillages, il faut bien choisir son heure de départ. Mais on roule quand même mieux qu'avant. Il y a 10-15 ans, le marché de Varsovie où j'allais vendre nos produits était à l'autre bout de la capitale. Il n'y avait pas de grande route pour s'y rendre, alors on devait faire tout le tour de la ville. Ça me prenait 2 heures. Maintenant, ça va beaucoup plus vite.
Il y a 15 ans, la Pologne rentrait dans l'Union européenne et depuis, les fonds communautaires financent la construction et la rénovation de centaines de routes à travers tout le pays. À Varsovie, le bitume est en bon état et le stationnement n'est pas cher non plus, à peine 1 euro de l'heure. Pourtant, on voit souvent des conducteurs se garer n'importe comment sur les trottoirs et sans payer.
Voilà ce que font les gens de nos rues. Regardez le trottoir. Ils l'ont aménagé afin qu'on puisse se garer plus facilement dessus, parce qu'il y a un manque constant de places de stationnement en Pologne.
Tomasz Brzeszczak a habité longtemps à Varsovie. Dans son dernier roman intitulé « Dieu, auto, patrie », clin d'œil à la devise de l'armée polonaise « Dieu, honneur, patrie », cet écrivain raconte la passion des Polonais pour leur voiture. Lui-même était un inconditionnel avant de la laisser prendre la poussière au garage et d'emprunter quotidiennement les transports en commun.
J'ai une amie, elle avait l'habitude d'aller travailler à Varsovie en voiture. Cela lui prenait 1h30 aller, donc 3h aller-retour tous les jours. J'ai calculé qu'elle passait plus de temps à se rendre à son travail en voiture qu'en vacances. Donc il y a quelques mois, elle a décidé de changer, de prendre le train. Elle m'a dit qu'elle avait lu déjà 5 ou 7 livres. Elle a ajouté « C'est génial, je regarde les gens, je leur parle. Je ne suis plus tendu, stressé, fatigué, je suis tranquille, relax. »
Mais la majorité des Polonais sont plus récalcitrants à l'idée d'abandonner leur véhicule.
Les Polonais adorent leur voiture. Même s'ils ont un bon système de transport en commun, ils choisiront leur véhicule. Les bus, les trams, ils trouvent que cela sent mauvais, c'est bondé. Pour eux, la voiture est un signe extérieur de richesse. Si vous avez une voiture chère, vous vous montrez avec. Et puis si vous parlez à des Polonais, ils vous diront qu'ils se sentent libres dans leur voiture.
Un héritage du communisme où il fallait économiser de longues années pour s'acheter une petite voiture. Aujourd'hui, c'est plus simple.
Nos villes sont faites, pensées pour les voitures. Si vous comparez avec les artères à Londres, ici à Varsovie, on n'a pas des rues ou des routes, on a des autoroutes. 3, 4, 5 voies de chaque côté, c'est très répandu. Si vous voulez traverser la rue à pied, vous en avez quasiment pour 10 minutes. Et puis personne ne respecte la limitation de vitesse à 50 km/h. Si quelqu'un veut, d'une manière ou d'une autre, réduire le nombre de voitures qui circulent, ce sera considéré comme une attaque contre la liberté. Et nous, Polonais, adorons la liberté. Et nos voitures, bien sûr.
Alors la ville de Varsovie va-t-elle se risquer à restreindre brutalement la liberté de ses habitants, en interdisant l'accès à certaines zones par exemple ? Il y a quelques mois, le maire a indiqué qu'il préférerait des mesures moins radicales et moins impopulaires. Agnieszka Jaczewska-Golinska est membre du conseil municipal.
On vient d'ouvrir 3 nouvelles stations de métro dans des quartiers très résidentiels. On est aussi en train de mettre en place de nouvelles zones de stationnement payant. On veut augmenter le prix des parcs-mètres dans le centre-ville. Enfin, les jours où le niveau de pollution est très élevé, les transports en commun sont déjà gratuits. Et j'espère que ce sera notre politique durant tout l'hiver.
L'élu de Varsovie pense pouvoir convaincre les plus jeunes davantage sensibles aux questions climatiques. Mais changer les mentalités des quadragénaires plus semble très compliqué.
Ça va chauffer au Parlement européen. En tout cas, les débats de cette semaine ont donné un avant-goût des prochaines auditions des commissaires européens. L'exécutif de l'Europe doit être approuvé par les parlementaires. Et autant dire que les choix de la nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, n'ont pas plu à tout le monde, surtout l'intitulé du commissaire chargé des migrations et de la protection du mode de vie européen, curieux mélange des genres. On en parle bien sûr amplement dans l'édition de cette semaine de Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Frédéric.
La presse allemande apprécie très diversement la nouvelle équipe qui devrait prendre ses fonctions le 1er novembre.
Et oui, malgré la polémique sur le papier, elle a fière allure la nouvelle commission d'Ursula von der Leyen. C'est die Tageszeitung qui le dit en Allemagne. La commission est plus féminine que la précédente, elle est aussi plus équilibrée politiquement, même si les Verts et la gauche ont à peine été inclus. Et puis, elle fait la part belle aux Européens du Sud et de l'Est, jusqu'alors négligés. Eux, ils obtiennent des postes importants. Mais derrière cette façade se cache un grand bluff sur les étiquettes, assure le quotidien d'Outre-Rhin. Les champs d'action des commissaires ont été redéfinis. Vous le disiez, Frédéric, l'un d'eux s'occupe désormais de la protection des modes de vie européens, ce qui a provoqué un tollé, car derrière, c'est l'immigration qui est visée, explique le journal de gauche alternative. On peut aussi citer valeurs et transparence, l'économie au service des personnes. En somme, c'est un fourre-tout particulièrement flou. La devise de la nouvelle commission est une union qui veut réaliser plus. Reste à savoir quoi, conclut le journal.
Et puis on reste en Allemagne, hein, puisque Ursula von der Leyen est allemande. 30 ans après la chute du mur de Berlin, un politologue nous explique les raisons du désenchantement des habitants d'ex-Allemagne de l'Est après la forte poussée de l'extrême droite lors des régionales du 1er septembre.
Oui, dans le journal Die Zeit, Alexander Clarkson retrace les illusions perdues des Ossis, comme on appelle les habitants de l'Est du pays. On remonte 30 ans en arrière. Au moment de la réunification, l'élite de l'Ouest a promis des lendemains radieux. L'Est serait un jour exactement comme l'Ouest, économiquement, culturellement, socialement. Harmonisation des conditions de vie, disait le chancelier de l'unité Helmut Kohl. À Hambourg, à Nuremberg ou à Hanovre, où beaucoup ont immigré dans les années 90, les Ossis se sont pourtant heurtés à une réalité très différente. Beaucoup, dans les villes ouest-allemandes des années 1990, ont dû démarrer tout en bas de l'échelle, en dessous des étrangers ukrainiens et turcs. Le message perçu peut se résumer ainsi. Nous ne sommes plus qu'une seule entité, mais nous ne faisons tout de même pas vraiment partie du club. Et encore, à l'Ouest, même les Albanais ont davantage voix au chapitre que nous. Beaucoup d'Allemands de l'Est ont eu le sentiment, en somme, que la société ouest-allemande les prenait pour des moins que rien, explique Clarkson. Et ça, ça ne s'oublie pas, ce sentiment peut même se transmettre sur plusieurs générations. Et puis cette migration vers l'Ouest a eu des conséquences sur l'Est, décimée. 11% de la population est partie. La situation actuelle, politiquement notamment, a eu au moins un avantage, conclut Clarkson, c'est de faire disparaître les illusions de la réunification. Désormais, il faut parler ouvertement de la réalité.
Et puis on parle encore de politique en Espagne. La réalité, c'est qu'il n'y a toujours pas de gouvernement, près de 5 mois après les dernières élections législatives.
Et de 4, Frédéric, on l'a appris mercredi, les Espagnols vont devoir retourner aux urnes pour la 4e fois en autant d'années. Ce sera le 10 novembre prochain. Arrivé en tête des dernières législatives fin avril, mais sans majorité absolue, le socialiste Pedro Sánchez n'a pas réussi à sceller une entente gouvernementale, pas même avec le parti de gauche radical Podemos. Depuis, les journaux espagnols sont furieux envers l'ensemble de la classe politique. C'est l'heure des irresponsables, titre le quotidien La Vanguardia. Le même terme est employé par El País, qui fustige une irresponsabilité complète. Mais pourquoi tant d'instabilité en Espagne au fond? Eh bien, depuis la chute du franquisme, le pays était dominé par deux grands partis, le PSOE, socialiste, et le Partido Popular, conservateur. Mais en 2015, deux nouvelles formations sont venues bousculer cet équilibre, Ciudadanos, de centre-droit, et Podemos, de gauche radicale, et plus récemment donc l'extrême droite de Vox, qui a fait une irruption fracassante à la Chambre des députés en avril dernier, avec 10% des voix et 24 élus. Le bipartisme fait partie du passé, constate El Periódico de Catalunya, et les politiciens, qui n'ont pas l'habitude de former des alliances, vont devoir apprendre vite. Les élections du 10 novembre seront un nouveau test. Selon les sondages, peu de chances que les rapports de force soient bouleversés. En d'autres termes, on se dirige une nouvelle fois vers un blocage et de nouvelles négociations.
Et puis Sacha, on traverse la Méditerranée pour rejoindre les collines du nord de l'Italie où une lutte des classes un peu particulière est en train de naître.
Et oui, une lutte autour du Prosecco, ce vin pétillant italien, cousin du champagne. Début juillet, les collines au nord de Venise, où le breuvage est certifié de qualité supérieure, ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Résultat, des producteurs veulent faire scission et cesser d'utiliser le terme Prosecco pour se distinguer des bouteilles low cost, entre guillemets, produites dans les vallées alentours. Ils vont donc organiser un référendum, et oui, sur la question après les vendanges 2019 aux grand dam des vignerons des vallées qui déplorent un manque de respect pour leur travail. La guerre entre l'aristocratie et le prolétariat du Prosecco, comme l'appelle le journal La Repubblica, ne fait que commencer.
Un autre référendum au sud de l'Europe, on suit ça de très près. Merci beaucoup Sacha Mitchell de Courrier International, à bientôt.
Merci Frédéric, à bientôt.
Délit d'opinion, condamnation arbitraire à Moscou. Des manifestants ont reçu des peines de plusieurs années de prison pour avoir participé à des manifestations cet été qui réclamaient des élections libres. De nombreux Russes, dont l'Église, ont dénoncé l'arbitraire des sentences. Sous cette pression, un jeune acteur de 23 ans, Pavel Ustinov, a finalement été libéré aujourd'hui sous caution dans l'attente de son appel. Ailleurs aussi, les décisions des tribunaux ont l'allure de roulette russe. En Turquie, où des centaines de journalistes sont poursuivis pour leurs opinions, une figure médiatique, Uğur Dündar, 76 ans, auteur d'une dizaine de livres et de dizaines de milliers d'articles, a été condamné à une peine étonnante, lire pendant 2 heures par jour, pendant 6 mois. Des livres de Kafka, peut-être, ce n'est pas précisé. Les explications à Istanbul, Dan Andlauer.
L'affaire commence en avril 2014 lorsqu'Uğur Dündar, doyen de la presse turque, signe dans le journal Sözcü, titre d'opposition, un éditorial évoquant des soupçons de corruption à l'encontre d'une figure du parti au pouvoir, l'AKP. Son nom, Binali Yıldırım. À l'époque, il est député de l'AKP et ancien ministre des Transports de Recep Tayyip Erdogan. Il deviendra 2 ans plus tard Premier ministre, puis président du Parlement, avant d'échouer cette année à l'élection municipale d'Istanbul. Dans son éditorial, Uğur Dündar s'appuie sur des écoutes téléphoniques ordonnées par un juge. Elle suggère qu'un riche homme d'affaires aurait versé des pots de vin à l'ancien ministre des Transports pour remporter le marché d'une piste d'atterrissage dans un aéroport d'Istanbul. Binali Yıldırım porte plainte pour insulte contre le journaliste, condamné en première instance à 11 mois et 20 jours de prison. Désavoué par la Cour de cassation, le tribunal local était appelé ce 12 septembre à rejuger l'affaire. Mais au lieu d'acquitter le célèbre journaliste, il a converti sa peine de prison en une obligation de lecture. Pour être tout à fait précis, il l'a condamné à lire pendant au moins 2 heures par jour sur une période de 6 mois des livres et des articles universitaires portant sur le thème des atteintes à l'honneur. Uğur Dündar se dit blessé, choqué et d'autant plus étonné qu'entre-temps, Binali Yıldırım avait retiré sa plainte. Il y voit une nouvelle façon de mettre au pas la presse critique, alors que des dizaines de journalistes turcs sont actuellement emprisonnés et des centaines poursuivis en raison de leur travail. Uğur Dündar ironise en expliquant avoir trouvé son prochain sujet de livre.
Et en Croatie, il vaut mieux ne pas critiquer la police ou les emblèmes de la République, surtout si on est un journaliste qui enquête sur la corruption ou les crimes de guerre. Un reporter à Zagreb vient d'en faire les frais. Il a été arrêté pour tweet subversif, Simon Rico.
Gordan Duhacek, journaliste du site d'information Index, a été jugé en comparution immédiate ce lundi par un tribunal de Zagreb. Il a écopé d'une amende de 754 kuna, une centaine d'euros, pour avoir publié un message anti-police sur Twitter. En juillet 2018, il avait utilisé l'acronyme ACAB pour All Cops Are Bastards, mais c'est seulement lundi matin qu'il a été interpellé à l'aéroport de Zagreb au moment où il s'apprêtait à monter dans l'avion. Il a ensuite été placé en garde à vue avant d'être emmené escorté par la police devant les juges. Pour justifier l'arrestation de Gordan Duhacek, la police croate a invoqué une loi datant des années 70 qui prévoit que quiconque discrédite ou insulte des autorités publiques ou des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions est passible d'une amende équivalente à 50 à 200 marks allemands dans la monnaie nationale ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 30 jours. À l'époque, il y a plus de 40 ans, la Croatie faisait encore partie de la Yougoslavie socialiste qui était alors loin d'être une démocratie. L'association des journalistes croates a condamné fermement ce traitement infligé à Gordan Duhacek, arrêté comme un criminel endurci, et estimé qu'on ne pouvait l'interpréter que comme une tentative d'intimidation de la profession. Les ennuis de Gordan Duhacek ne sont toutefois pas terminés. Le journaliste doit encore être jugé pour un autre de ses tweets, la réécriture satirique d'une célèbre chanson patriotique croate, considérée par les autorités de Zagreb comme une offense aux citoyens. En Croatie, les journalistes enquêtant sur la corruption, le crime organisé et les crimes de guerre sont souvent victimes de campagnes de harcèlement dans ce pays où la diffamation est pénalisée et où l'insulte à la République, son emblème, son hymne national ou drapeau est passible d'une peine de 3 ans de prison, rappelle Reporters sans frontières. La Croatie occupe la 64e place sur 180 de son classement mondial 2019 de la liberté de la presse.
Et pour notre chronique musique, on retrouve Vincent Teval. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric.
Et on parle d'un retour qui nous vient de Belgique.
Eh oui, 10 ans après son dernier album solo, l'auteur-compositeur bruxellois Samir Barris donne de ses nouvelles avec Fin d'été, un album qui porte les traces de son parcours et des projets qui l'ont occupé ces dernières années, car Samir Barris n'est pas resté inactif et a partagé son temps entre un groupe de chansons francophones et un autre de musique traditionnelle. Et il a aussi été invité à chanter des poèmes classiques dans des écoles, un geste sans doute assez naturel pour celui qui fut étudiant en lettres modernes, diplômé en philologie et un temps enseignant. C'est donc tout un pan de sa culture qui s'en est trouvé ravivé et qui a nourri ce nouveau disque où il interprète quelques-unes de ses compositions, mais surtout adapte des poèmes de Ronsard, Verlaine, Hugo, Baudelaire ou encore Mallarmé et sa brise marine.
La chair est triste et là. Et j'ai lu tous les livres. Fuir là-bas, fuir, je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume, inconnus et les cieux. Rien n'y lève, vieux jardin, reflété par les yeux. Ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. Ô nuit ni la clarté, déserte de la lampe, sur le vide papier que la blancheur défend. Et ni la jeune femme allaitant son enfant. Je partirai, steamer, balançant ta mâture. Lève l'ancre pour une exotique nature.
Brise marine du musicien belge Samir Barris. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast. Accent d'Europe, à lundi.
Des mouchoirs.